Je propose de démarrer, si on peut fermer les portes. Voilà. Bienvenue donc pour cette conférence. Pendant une heure et demie, on va parler avec les personnes qui sont à mes côtés, que je vais vous présenter tout de suite. On va parler des différents acteurs, des différentes sources de financement, de la reprise d'entreprise. Alors, avant de rentrer directement dans le sujet, je voudrais déjà vous présenter les intervenants à cette conférence. Je vais démarrer à ma droite, extrême droite. Jean-Philippe Deltour, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Bonjour à tous. Je suis gérant de Crédit Relax, qui est une société de conseil et de courtage en financement professionnel. Donc, très simplement, nous sommes intermédiaires entre les entrepreneurs et les banques pour des recherches de financement, de reprise et de création d'entreprise.
Juste à sa gauche, Stéphane Meunier, qui lui travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et qui est plus spécifiquement conseiller transmission, pour passer le relais.
Voilà, donc conseiller en reprise transmission plutôt PME-PMI, donc à la Chambre de commerce au sein du réseau Passer le relais. Donc notre métier au quotidien, c'est d'accompagner des cédants et des repreneurs d'affaires en amont dans leur démarche et après de mettre en relation l'offre et la demande sur ce marché, notamment à travers un réseau donc, qui s'appelle Passer le relais.
Alors, on n'a pas prévu d'ailleurs de vous présenter plus dans le détail Passer le relais, parce que normalement, vous avez prévu des jolies plaquettes, des petits guides, mais ils sont quelque part dans les couloirs, donc peut-être qu'on va remettre la main dessus, on espère, ça sera le suspense. Donc, juste pour en deux mots, Passer le relais, donc c'est un réseau qui permet de mettre en relation des dirigeants, donc des cédants et des repreneurs, aussi bien en commerce qu'en PME-PMI. Ce réseau, en fait, est commun à toutes les CCI d'Île-de-France. Ça s'appelle Passer le relais. Vous pouvez en savoir plus, je ne vais pas m'étendre, sur Internet, avec passerlerelais.ccip.fr, sachant qu'on a effectivement une équipe de plus de 20 conseillers qui vous accompagne, aussi bien que vous soyez dirigeant ou futur repreneur. Voilà. On a également une bourse d'opportunité, c'est-à-dire des affaires à vendre, aussi bien en commerce qu'en PME-PMI. Donc voilà, pour passer le relais. Et puis surtout, avant de démarrer, je voudrais donner la parole à Hugues Franc. Bonjour.
Bonjour. Donc Hugues Franc, je m'occupe du réseau Entreprendre sur Paris que j'ai créé il y a 5 ans. Et je vous expliquerai plus en détail en quoi ça consiste.
Alors on va parler de financement, donc c'est un sujet évidemment d'actualité parce qu'on peut avoir beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, on peut même déjà avoir trouvé l'entreprise de ses rêves. Il y a un moment donné où il faut savoir comment on va mobiliser les fonds nécessaires. Alors avant de démarrer, il y a juste une précision. Donc on va faire un panorama, on va parler évidemment des apports personnels. On va vous parler des prêts d'honneur, c'est une des principales raisons pour lesquelles j'ai invité Hugues Franc. On va parler de crédit vendeur et de remontée trésorerie. Pour ceux qui sont un petit peu au fait de la reprise, ça vous dira forcément quelque chose. On parlera évidemment de financement bancaire, et là en l'occurrence c'est Jean-Philippe Deltour. Et puis on fera un rapide point sur les investisseurs privés, savoir dans quelles conditions vous pouvez éventuellement faire appel à ce type de complément de financement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de parler des apports personnels, Stéphane Meunier, je voudrais juste qu'on précise peut-être quelque chose par rapport au... un peu à ce qui fait la spécificité du financement, la différence entre une création bon, dans laquelle on a besoin d'une somme, et dans la reprise, il y a plusieurs modalités de reprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Alors oui, on distingue effectivement la reprise de société, donc on parle plutôt de rachat de parts sociales, du rachat de fonds de commerce. La grosse différence entre les deux, dans le rachat d'une société, vous rachetez l'actif et le passif de la société, c'est-à-dire les dettes. Donc dans le processus de négociation et éventuellement d'audit à effectuer avant l'acquisition, il y aura un certain nombre de choses à vérifier parce que vous allez vraiment devenir propriétaire de tout le passif. Donc il faut bien valider ce qui se trouve bien sûr à l'actif, mais au passif des sociétés. On verra d'ailleurs qu'il y a des montages financiers un peu spécifiques pour le rachat de sociétés ou de parts sociales. Vous avez certainement entendu parler de la reprise par holding ou du montage via LBO qu'on précisera un petit peu plus tard. Dans le rachat de fonds de commerce, là, vous ne rachetez que les actifs Donc on peut quasiment assimiler le rachat de fonds de commerce à un petit peu de la création, parce que vous allez créer une entité juridique propre pour racheter un portefeuille clientèle, un nom, des carnets d'adresses fournisseurs ou autres que vous allez incorporer à l'actif de votre société nouvellement créée.
Ok, donc des précisions qui sont importantes par rapport, surtout on verra plus tard, au moment où vous allez présenter votre financement, les risques ne sont pas les mêmes, puisque dans le cas, donc on le répète, du rachat de parts sociales, donc de rachat d'une société, vous allez hériter à la fois des, on espère, des plus, donc de ce que vous rachetez, ce qui a de la valeur, mais vous allez aussi hériter du passif, c'est-à-dire tous les problèmes, tout l'historique de l'entreprise, et c'est là-dessus où parfois il peut y avoir des problématiques, c'est ce qui va aussi, au moment du financement et en particulier au moment de la négociation avec le vendeur, poser un certain nombre de problèmes, puisqu'on va rentrer dans les problématiques de garantie de passif, etc. Mais c'est important, puisque au moment des négociations avec le banquier, bah lui, par exemple, il va particulièrement s'intéresser à ça, ou n'importe quel autre acteur, style le réseau entreprendre. Tout le monde va essayer de voir comment, en tant que repreneur, et en particulier, donc, et c'est vraiment là-dessus qu'on va s'attarder, puisque là, on va dire, l'achat de fonds commerce, vous allez trouver les réponses à ces questions-là, mais on va quand même aller dans les spécificités des rachats de parts sociales, de rachat de la société. Donc c'est là-dessus aussi où il va y avoir vraiment des choses à bien approfondir. Alors, bah, pour démarrer, j'avais envie de dire on est en France, mais bon, je pense que c'est un petit peu partout pareil. Bah, pour démarrer, vous pouvez avoir trouvé la plus belle entreprise du monde, être le meilleur futur chef d'entreprise du monde. Il faut un minimum d'apport personnel. Je crois que là-dessus, démarrer avec 0 €, c'est juste pas possible. Puisque en devenant chef d'entreprise, vous allez trouver, en fait, en cherchant des financements, vous allez chercher des partenaires. Et en fait, aucun de ces partenaires n'est prêt à jouer le financier à 100%. Ils attendent tous que vous soyez le premier financier. Alors, c'est sûr, c'est vous qui allez prendre un certain nombre de risques, mais tous les partenaires financiers s'attendent d'abord à ce que vous preniez les risques. Ça veut dire que si vous mettez 10, ils vont peut-être pouvoir mettre peut-être autant. Alors, on va voir que les ratios sont pas exactement ceux-là, c'est pas 50-50, mais dans l'idée, il faut plutôt partir avec cette idée en tête, c'est que d'abord un partenaire financier, quel qu'il soit bancaire, qu'il soit partenaire privé, fonds d'investissement, réseau entreprendre, ils partent du principe que vous allez être le chef d'entreprise et que donc c'est vous qui prenez les risques financiers, eux, ils vont vous accompagner. Donc, par rapport à ça, question, alors, sur les apports personnels, il y a des choses quand même, comment est-ce qu'on fait pour, d'où peuvent venir ces différents apports personnels, Stéphane ?
Alors, il y a bien sûr l'apport principal du dirigeant, mais il peut y avoir ce qu'on appelle un premier tour de table familial. Donc là, vous pouvez tout à fait solliciter des collègues, des amis, votre réseau personnel, professionnel, pour investir au capital de la société ou de la holding qui va effectuer la reprise. On parlera bien sûr des prêts d'honneur qui font partie, qui sont a priori des apports, des prêts apportés aux dirigeants en tant que personne et non pas à la société. Donc ça fait partie de ce tour de table. Ce qu'il faut savoir et aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir un minimum de 30 voire 40% d'apport personnel sur vos projets, notamment par rapport à ce qui se passe d'un point de vue économique aujourd'hui. Et peut-être que Jean-Philippe pourra le confirmer, quand vous allez voir une banque ou un financeur, les conditions sont indéniablement resserrées. Donc ils vont vous demander 30%, c'est déjà un minimum du minimum, voire 40% d'apport personnel. Juste rajouter que par rapport à cet investissement en capital de société nouvelle, il y a des dispositifs intéressants pour vous et pour les gens qui vont participer à ce projet. Donc on parle de loi Madelin ou de loi TEPA. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Pour faire simple, la loi Madelin vous permet d'obtenir une réduction d'impôt sur la somme que vous allez apporter au capital de votre société ou de votre holding nouvellement créé. Et vous avez le droit, ce n'est pas négligeable, à 25% de réduction d'impôt net. On parle bien de réduction d'impôt. Alors plafonné bien sûr dans la limite de 40 000 € si je ne m'abuse pour un couple, donc ça fait une réduction nette d'impôt de 25% de 40 000, 10 000 € chaque année et reportable sur les années suivantes, donc très intéressant. Et on parle également maintenant beaucoup de la fameuse loi TEPA et de la possibilité pour des investisseurs qui seraient imposés à l'ISF, ou qui sont imposés à l'ISF, de pouvoir défiscaliser. Et comment ils défiscalisent ? Ben, ils défiscalisent en apportant là aussi au capital des sociétés que vous allez créer. Et la défiscalisation est également très importante. Je l'ai noté, on est sur un plafond annuel de réduction de 50 000 euros. Donc la loi TEPA ouvre vraiment toute une nouvelle voie de recherche de financement via des investisseurs privés, via ce qu'on appelle aussi des holdings ISF, mais je pense qu'on le reverra par la suite, donc via des personnes qui sont imposées à l'ISF et qui souhaitent défiscaliser.
J'avais envie de, avant d'avancer, par rapport à ça, justement dans la salle, vous êtes plutôt qui est futur repreneur ? Et oui, vous pouvez lever la main. Et vous êtes plutôt repreneur, ce qu'on appelle repreneur à titre individuel ou repreneur déjà en société, c'est-à-dire personne morale. Repreneur personne morale, levez la main. Oui, donc vous êtes aussi moins nombreux, mais aussi ok. Donc par rapport à ça. Ce qui sera intéressant, enfin on se laissera un temps pour des questions et réponses, ce qui sera intéressant aussi c'est par rapport à aux différents points de vous puissiez aussi évidemment interroger les personnes qui sont là. Alors donc important ces avantages fiscaux, on verra tout à l'heure par rapport à ça. Est-ce que aujourd'hui d'ailleurs sur cette fameuse loi TEPA, je pose la question à Hugues Franc et à Jean-Philippe Datour, est-ce qu'il y a effectivement vraiment beaucoup de sociétés, ce qu'on appelle holding TEPA, qui se sont montées ?
Aujourd'hui, oui, il y a de plus en plus d'holding ISF qui se créent et qui ont levé des gros montants. Elles ont pour obligation, pour la plupart d'entre elles, de placer cet argent avant le mois de juin chaque année. Donc c'est le moment d'aller de les approcher. Elles sont pour la majorité plutôt axées sur du développement ou de l'amorçage, moins sur de la reprise. Mais celles qui sont dans une position où elles doivent investir et rapidement sont ouvertes évidemment à tout type de projet. Donc moi je vous invite pour ceux qui ont des apports limités, comme le précisait Stéphane, de se rapprocher de fonds de ce type qui pourraient vous accompagner en apport de capital.
Ok, on en parlera de toute façon tout à l'heure. Alors donc on a parlé de l'argent que vous allez pouvoir, vous allez vous-même amener, éventuellement de l'argent de la famille, des proches. Assez rapidement, il va falloir chercher de l'argent un petit peu plus loin. Et donc, une des deuxièmes sources de financement importantes, donc, ce sont ce qu'on appelle les prêts d'honneur. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hugues Franc, est-ce que, déjà, en deux mots, le principe du prêt d'honneur, c'est quoi ?
Alors, le prêt d'honneur, c'est très simple. C'est un prêt personnel, donc considéré comme des quasi-fonds propres pour tous les organismes d'effet de levier bancaire, hein, par exemple. En ce qui nous concerne, dans notre réseau, il est situé dans une fourchette entre 15 et 50 000 euros. C'est un prêt qui vous est alloué sans caution personnelle, parce qu'on croit en l'entrepreneuriat, on est des militants de l'entreprise, donc on vous fait confiance, on fait confiance aux personnes, et ce prêt, bien entendu, est remboursable avec des différés qui diffèrent en fonction des différents réseaux. En ce qui concerne Paris Entreprendre, on a un différé de 18 mois, et après remboursable sur 3 ans. Donc bout à bout, vous avez 4 ans et demi pour rembourser votre prêt, sans intérêt, bien entendu, parce que nous ne sommes pas un organisme financier.
D'accord, donc si je résume, c'est quand même un prêt à taux zéro.
Absolument. Oui.
D'accord, donc un prêt à taux zéro. Et donc un prêt à taux zéro, quel est pour vous déjà, quel est l'intérêt pour le réseau Entreprendre comment vous justifiez votre rôle économique ? Parce que bon, c'est bien de faire des prêts à taux zéro, j'imagine que pour tous les entrepreneurs, mais comment ça fonctionne en réalité ? Où est l'équilibre ?
Alors nous, avant tout, l'équilibre, si je puis dire, il est en dehors du domaine financier. Ce qu'on souhaite, c'est montrer qu'en France, on peut créer ou reprendre une entreprise, parce que ces prêts, effectivement, sont orientés vers des créateurs ou des repreneurs d'entreprises, et on a comme focus la PME à potentiel de création de valeur, c'est-à-dire, en ce qui concerne la création ex nihilo, c'est une entreprise de 15 personnes, 4-5 ans après sa création, en moyenne, hein, Et en ce qui concerne la reprise d'entreprise, donc on est sur des reprises à partir d'une dizaine de salariés, sans trop s'arrêter au niveau de la valorisation de ces entreprises, parce que notre effet de levier va au-delà de l'aspect financier, je vous l'expliquerai en fait. Mais ce qu'on veut aussi pour ces reprises d'entreprise, qu'elles ne se limitent pas à la reprise d'un actif, mais aussi qu'elles soient assimilées à une quasi-recréation, c'est-à-dire qu'elles créent de la valeur et qu'elles créent de l'emploi dans une phase de développement.
D'accord. Finalement, alors, le réseau entreprendre, en termes de participation au financement, vous êtes à peu près, vous vous situez comment là? On disait tout à l'heure, les apports personnels, c'est minimum 30%. Avec des prêts d'honneur qui vont maximum à 50 000 euros, vous vous situez à quel niveau? Alors, je sais que vous avez amené des chiffres, si vous voulez, on peut...
Oui, alors, c'est vrai que j'ai une présentation très, très globale, mais je vais... Voilà, vous avez un plan de financement type là, qui est un plan qui vous donne un peu une idée de l'effet de levier que nous provoquons à l'extérieur. Vous voyez effectivement des besoins de financement de 400 000 euros à peu près. Hein, donc ça concerne, alors on a mélangé création et reprise, mais on pourra revenir plus en détail en ce qui concerne la reprise. Toujours est-il que vous voyez des apports assez conséquents, de l'ordre de 30% d'apports en fonds propres de la part du créateur ou du repreneur et de ses associés. Notre prêt d'honneur moyen qui est de l'ordre d'un bon 20 000 euros. Et grâce à cela, on essaye de faire jouer un effet de levier auprès des banques sous forme de crédit moyen long terme. Et moi, j'insiste surtout sur le moyen terme, c'est-à-dire sur une période de 5 à 7 ans qui correspond grosso modo au 1 pour 1 en ce qui concerne l'apport en fonds propres du porteur de projet plus notre prêt d'honneur, considéré comme des quasi-fonds propres. Donc vous voyez qu'il y a 150 000 euros d'apport en fonds propres, y compris notre prêt d'honneur, et 173 000 euros de crédit bancaire par effet de levier, ce qui est vraiment excellent.
Donc, quand vous dites excellent, c'est pour le banquier?
Alors, enfin, du côté non, du banquier. C'est pour vous, l'entrepreneur, qu'en fait. Hein, surtout, effectivement, la difficulté, on le sait bien en France, c'est de trouver de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, parce qu'on est surtout, nous aussi, un réseau d'accompagnement. Donc, moi, je mettrais en avant plus l'accompagnement que l'élément financier. Mais grâce à notre label, qui est vraiment très fort, l'effet de levier, effectivement, est vraiment vérifié. À titre d'exemple, ça date tout juste d'une semaine, où j'ai présenté la reprise d'un fonds de commerce devant notre comité de sélection. Donc on a toute une démarche que je vous préciserai, valorisée grosso modo à 900 000 euros en fait. Donc ce repreneur effectivement souhaitait par effet de levier un crédit moyen terme de 600 000 euros auprès des banques. Il bénéficiait d'un crédit vendeur de 200 000 euros et le reste c'était effectivement ses fonds propres plus notre prêt d'honneur que j'ai situé à 40 000 euros en fait. Et ben, toutes les banques lui disaient non, toutes. Alors moi, j'ai pris effectivement un peu de risque parce qu'avant que le dossier soit lauréat, je l'ai présenté à nos partenaires banquiers. Et il a eu deux propositions de la part de deux grands établissements bancaires avec des conditions extrêmement intéressantes. Et grâce à cela, effectivement, notre label a fait en sorte qu'il était financé.
Vous pensez que sans le label Réseau Entreprendre, en fait, les banques auraient fermé la porte?
On n'est pas la panacée. Il n'y a pas que nous, et Dieu merci, parce qu'autrement, ce serait une catastrophe. C'est vrai qu'on aide beaucoup, parce qu'on rassure, on a une démarche de sélection. Notre réseau, grosso modo, est un réseau privé constitué de chefs d'entreprise, qui sont des adhérents. On est associatif. Et ces chefs d'entreprise, donc sur Paris, j'en ai à peu près 170, ils donnent du temps bénévolement. Ils passent du temps, ils accordent un effet miroir auprès des porteurs de projets qu'ils rencontrent grâce à nous, en fait. Donc, dans le cas, effectivement, vous avez un dossier de reprise d'entreprise situé sur Paris Intramuros, donc vous venez nous voir. Nous, on vous reçoit, en fait, et vous rencontrez, après une phase de prévalidation faite en interne, 5 à 6 chefs d'entreprise qui vous apportent un effet miroir, une vision globale, qui vous aide, mais considérablement, dans votre réflexion, dans votre façon de vous réorienter, de gagner du temps et de ne pas faire des erreurs que eux ont pu commettre il y a un certain temps. Donc là, c'est vraiment un apport, si je puis dire, une vision globale de l'entreprise extrêmement intéressante pour vous. Donc toute cette phase de validation faite par notre réseau en amont rassure énormément les banques. Et surtout, notre réseau accompagne dans la durée, c'est-à-dire que tous nos lauréats sont accompagnés pendant près de 3 ans individuellement par un chef d'entreprise. C'est obligatoire, c'est contractuel. Et j'ai à peu près par an une trentaine de dossiers sélectionnés, en fait. Et chacun a un chef d'entreprise voilà, qui lui apporte ce suivi. Avec des réunions aussi que nous organisons tous les mois, en fait, où nous mettons autour d'une table nos lauréats qui partagent entre eux, qui, un peu à cœur ouvert, disent là où ils en sont, leurs succès, leurs difficultés. Donc il y a toute une dynamique de groupe, mais extrêmement passionnante déjà. Moi, j'en parle avec passion parce qu'on apprend toujours plein de choses, et extrêmement riche et productive pour tout un chacun. Et c'est vrai que l'élément financier est nécessaire et indispensable, mais tous les lauréats que nous sélectionnons, au bout, nous disent, écoutez, c'est l'accompagnement qui a été pour nous le principal effet de levier. Parce que grâce à cela, on ne s'est pas senti isolé. On a eu un réseau bienveillant avec nous, sans chercher son propre intérêt financier, parce qu'on n'est pas un réseau de business angels, donc mes adhérents ont interdiction d'investir. Donc on est dans la gratuité la plus totale, donc c'est rare, mais ça marche à fond. Et quand j'ai par exemple des grands patrons comme Philippe Houzet ou d'autres, des Galeries Lafayette, qui donnent du temps bénévolement, eux, c'est la passion qui les anime, c'est de se dire, effectivement, il y a des idées extrêmement intéressantes, on est là pour pouvoir voilà, aider ces repreneurs ou ces créateurs dans leur démarche. Donc tout ça fait en sorte que les réseaux bancaires nous suivent. Et je peux vous dire que les taux de réussite, alors quand j'en parle, quelquefois c'est des tollés dans la salle en disant « mais allez voir votre banquier », on me dit « les portes se ferment ». Chez nous, non. 90-95% de mes projets sont financés sous forme de moyen terme, hein, j'insiste bien, par les banques.
Et vous êtes plutôt... Enfin, est-ce que vous avez des activités ou des secteurs de prédilection ou
Non, absolument pas. Nous, on a trois valeurs. Alors, c'était un peu je me prends les choses un peu dans le désordre. Trois valeurs. Pour vous donner un peu une idée de notre état d'esprit, ce réseau a été monté par un homme qui s'appelle André Mullier. Donc, c'est une famille bien connue, une famille industrielle bien connue en France, qui a l'entreprise dans le sang, qui a monté un groupe magnifique avec des écoles d'entrepreneurs dans la famille, etc. Donc on essaye de réagir de façon extrêmement concrète et terre à terre. Et on se base sur trois valeurs. La première, c'est la personne. Et on est convaincu, comme le disait Mullier, la réussite d'un projet, 70%, c'est les hommes et les femmes qui le font, en fait. Donc nous, on accorde énormément de crédit aux gens qu'on a en face de nous, en cohérence, bien sûr, avec l'histoire qu'ils nous racontent. Donc pour voir comment les choses... Donc on veut connaître les entrepreneurs qu'on a en face de nous, on veut qu'on soit dans une démarche cohérente, donc on va au fond d'un business plan, mais on n'est pas des banquiers, on ne réagit pas comme des banquiers, moi je ne passe pas mon temps à faire des ratios dans tous les sens.
Mais quand même, il faut quand même vous fournir un... Enfin, juste pour qu'on... Je suis tout à fait... Enfin, pas pour... Mais pour... Enfin, il faut quand même vous déposer un dossier financier. Oui. C'est-à-dire, quand on vient déposer un dossier au réseau Entreprendre, ce n'est pas comme un banquier. Ok, mais on est d'accord qu'il faut quand même vous proposer un vrai business plan. Enfin, on vient pas juste pour se dire voilà, je suis quelqu'un de super, j'ai envie de rencontrer des gens super. Enfin, j'imagine qu'il faut vous déposer un dossier quand même qui tienne la route aussi.
Oui, alors effectivement, on demande toujours un business plan. On n'est pas là pour participer à sa formalisation, donc c'est le point de départ effectivement.
C'est le point de départ. Donc il faut arriver avec un dossier déjà qui soit quand même relativement complet par rapport à ça.
Voilà, avoir identifié votre cible, ça c'est évidemment essentiel, et proche effectivement du protocole d'accord, qu'en fait que vous soyez quasiment sûr effectivement que vous allez effectivement faire affaire avec le cédant d'entreprise. Donc on est dans une démarche où on peut intervenir en amont, mais les choses sont quasi certaines en fait. Donc on est là pour vous aider à toute cette reformulation, à cette mise en cohérence, et on chemine ensemble.
Pour finir, peut-être un dernier mot, parce que je vous ai coupé dans votre élan, je suis désolée, mais c'était sur simplement pour repréciser par rapport à la reprise, effectivement, ce dont vous aviez besoin, vous, pour pouvoir étudier les dossiers. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, si vous avez juste une dernière chose à rajouter par rapport à l'esprit, peut-être, reste du réseau Entreprendre.
Oui, alors l'esprit, ben, je vous l'ai un peu donné, peut-être un peu dans le désordre, mais bon... Grosso modo, une démarche en fait en trois phases. Pour prendre les choses dès le départ, effectivement, l'envoi d'un business plan. En ce qui me concerne, moi, il faut que l'entreprise soit sur la ville de Paris, mais notre réseau est national, donc on a 37 implantations en France. Suite à cela, nous, on regarde quelques critères très simples. Votre rapport en fonds propres, on aide des hommes et des femmes majoritaires, bien sûr, hein, que l'entreprise ait été identifiée et proche, effectivement, de la reprise. Et puis, on vous reçoit et on envoie le dossier auprès de plusieurs chefs d'entreprise qui vous apportent ce fameux prévalidation dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous font un feedback, en fait. Et sur ce feedback... On décide de passer le projet devant ce qu'on appelle un comité d'engagement. Donc, c'est la deuxième étape, plus consensuelle, avec d'autres chefs d'entreprise qui vous écoutent pendant un quart d'heure et qui décident à ce moment-là de l'attribution d'un prêt d'honneur sur la base d'un plan de financement sur lequel on a travaillé, tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Donc, des prêts, je répète, entre 15 et 50 000 euros, qui permettent de faire jouer l'effet de levier bancaire. Alors, Pour la reprise, évidemment, nous, on est sur des valorisations beaucoup plus importantes que pour la création, ça va de soi. Paris Entreprendre, on a sélectionné certains projets de reprise avec des valos entre 800 000 euros jusqu'à 3 millions d'euros. Alors vous allez me dire, un prêt d'honneur en moyenne de 35 000 euros, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et la question est tout à fait judicieuse, effectivement. Ce n'est pas là-dessus qu'on fait l'effet de levier. Mais ce que je disais, effectivement, en amont, c'est vraiment notre label qui fait la différence. Et quand je vous citais, effectivement, le cas précédent, ces 600 000 euros de ce repreneur qu'il a trouvé grâce à nous, c'est l'accompagnement, voilà, notre estampille, effectivement, qui fait qu'il a réussi
aussi
à convaincre.
Le réseau aussi, le réseau. Parce que c'est vrai que le réseau aussi permet parfois d'ouvrir des portes, et c'est important.
Ouais, absolument. Donc, voilà un peu globalement ce que l'on propose. Donc, juste pour terminer là-dessus, surtout pas de baisser les bras. C'est pas toujours très simple. Nous, on est là, on est des facilitateurs, en fait. Et on a, effectivement, tout le succès le prouve, parce qu'on a, sur Paris, on a des 120 boîtes en 4 ans et demi, 92% d'entre elles sont toujours en activité, ce qui est vraiment excellent. Et on a d'excellents dossiers de reprise d'entreprise, mais vraiment excellents.
Alors, je vous propose justement de continuer sur ces fameux plans de financement. On vous a préparé un petit tableau. Il est 14h30, on ne va pas trop vous faire cogiter, mais on vous a préparé un petit tableau pour essayer de formaliser les choses. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire effectivement qu'une reprise par LBO, une reprise par holding? Donc je vais proposer à Stéphane, si vous voulez bien juste commenter ce tableau qui est un schéma de base en fait dans la reprise d'une PME-PMI ou en tout cas de n'importe quelle société, de la plupart des sociétés.
Alors oui, effectivement, c'est un schéma de base. Là, on parle bien d'une reprise de société, hein, et non pas d'un fonds de commerce. Donc, dans le cadre d'une reprise de société, on peut créer ce qu'on appelle un effet de levier. Donc, l'effet de levier, il y a encore 2-3 ans, en mettant 1 dans une affaire, vous pouviez racheter une affaire qui valait 4-5. Donc, effet de levier intéressant. Là encore, les conditions se sont resserrées. Avec ce montage, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez créer un effet de levier de 3-4. Alors, comment tout cela fonctionne? Vous allez avoir une entreprise cible, donc l'entreprise pour laquelle vous allez faire l'acquisition. Vous allez créer au-dessus de cette entreprise cible une ce qu'on appelle une holding de reprise. Donc, c'est dans cette holding de reprise que vous allez apporter vos fonds propres, le tour de table familial, éventuellement le prêt d'honneur qui a été sollicité, et éventuellement des investisseurs type fonds d'investissement, business angel, ou les fameuses holding ISF, qui vont prendre part au capital de votre holding de rachat. Cette holding est propriétaire à 95%, parce qu'on parle d'intégration fiscale, mais souvent c'est 100% de l'entreprise cible. Et le schéma va être le suivant. Vous allez vous servir de l'exploitation et de la rentabilité dégagée par votre société cible pour rembourser les mensualités d'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire étant sollicité, là aussi, par la holding de reprise. Et ce qui va se passer, vous allez faire remonter des dividendes. On considère un maximum de 70% de remontée de dividendes de la société cible vers la holding. Et c'est ces remontées de dividendes qui vont servir à rembourser les mensualités d'emprunt. Alors, la condition essentielle, c'est que votre cible soit rentable ou qu'elle le devienne à travers le développement que vous allez y apporter.
D'accord. Et en gros, ce dispositif-là, on l'évoque aussi, peut-être qu'il faut le préciser, la possibilité de rembourser il y a un intérêt, fiscal, c'est-à-dire que la déductibilité des intérêts, que je ne dise pas de bêtises, la déductibilité des intérêts est possible seulement dans ce schéma-là. D'accord ? Si vous étiez simplement un repreneur personne physique, les intérêts ne seront pas déductibles. Vous allez les payer et ils sont entièrement à votre charge. Alors que là, déjà, un des premiers avantages de ce dispositif-là, c'est que vous allez pouvoir imputer ça comme une charge, les intérêts. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'effectivement, on va avoir un effet de levier. C'est ce qu'on appelle le fameux effet de levier, alors qui est variable selon les périodes. Mais par rapport à ça, est-ce que justement, on peut... comment ça se passe au niveau justement de la remontée de la remontée, alors pas forcément seulement des dividendes, mais aussi de la trésorerie. Comment ça se passe par rapport à ça? Alors, et là, c'est vraiment quelque chose de spécifique à la reprise. Hein. C'est pas quelque chose en financement, enfin en création, la question se poserait même pas. Mais là, la question, c'est de dire, voilà, je fais un montage de ce type, un montage holding. Et comment je vais pouvoir utiliser au mieux le cadre fiscal, juridique, pour pouvoir, et économique évidemment, pour pouvoir financer le développement de ma société. Donc déjà sur le prélèvement, alors ce qu'on appelle le prélèvement sur cible, ça consiste en quoi en fait?
Alors en fait, il y a deux choses que vous pouvez faire remonter de l'entreprise cible vers la holding. Les dividendes, donc liés au résultat net de la cible, ça on l'a déjà dit. Éventuellement, la trésorerie excédentaire présente dans la cible. Et on a souvent des sociétés qui sont à vendre où on a énormément de trésorerie excédentaire. Donc quand on parle de trésorerie excédentaire, c'est de la trésorerie qui ne sert pas dans le cadre de l'exploitation et du besoin de financement du BFR au quotidien.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Parce que pour un néophyte, je trouve que ça paraît toujours un peu fou. On se dit, on va racheter une entreprise et quoi, il y a de la trésorerie dedans. Enfin, ça, c'est un peu basique, mais on se dit, mais pourquoi il en a... Qu'est-ce qui fait cet argent-là qui sert à rien? Comment ça se fait, quoi?
Un exemple simple, ne serait-ce que d'un point de vue d'une optimisation fiscale, vous avez beaucoup de dirigeants cédants qui vont partir à la retraite. Et dans le cadre de leur départ à la retraite, lorsqu'ils vont vendre leur société, ils seront exonérés d'une partie de la plus-value. Donc, est-ce qu'ils ont intérêt à laisser, plutôt que de se distribuer des dividendes ou de se payer un salaire, est-ce qu'ils n'ont pas plutôt intérêt à laisser l'argent dans la société, à toucher cet argent sous forme de prix de cession, et en gros, pour schématiser, une trésorerie excédentaire, ça se paye un pour un. Si vous avez une valorisation de société, on est entre 5 et 7 fois les résultats nets retraités, à ça, vous y ajoutez la trésorerie excédentaire, et c'est quasiment du un pour un. Et le dirigeant cédant, d'un point de vue d'optimisation fiscale, il aura intérêt à laisser cet argent dans la société pour pouvoir bénéficier de l'exonération de plus-value, plutôt que de payer plein pot, de l'impôt revenu ou des charges salariales s'il se le distribue sous forme de dividendes ou sous forme de rémunération.
D'accord. Okay.
Donc on a beaucoup de sociétés où effectivement vous avez, parce qu'elles ont un passé important, il y a beaucoup de trésorerie qui est placée. Donc cette trésorerie, ça fait l'objet de discussions dans le cadre de vos négociations. Soit le cédant le récupère, en récupère une partie, soit il la laisse dans la société, mais auquel cas ça se valorise.
Ok. Est-ce qu'il y a alors un autre aspect, peut-être un autre aspect sur est-ce qu'il y a des choses déjà par rapport à la remontée justement de cette trésorerie? Est-ce qu'il y a des choses à préciser ou par rapport à la...
Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'entre la société cible et la holding, il faut juridiquement faire les choses correctement.
Important quand on est dans un régime holding cible
et à signer ce qu'on appelle on l'a noté ici, une convention de trésorerie, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Il y a des conseils spécialisés qui ont l'habitude de faire ça au quotidien. Là aussi, petite parenthèse, dans le cadre de vos négociations et de votre projet de reprise, n'hésitez pas à être accompagné et entouré de personnes qui ont l'habitude de traiter ce genre de problématiques.
Alors, il y a un point dont vous avez sûrement déjà tous entendu parler, qui est le fameux crédit vendeur. Alors, ça se fait quand même régulièrement. En quoi ça consiste exactement? Alors, je ne sais pas si Stéphane voulait répondre ou si Jean-Philippe peut-être sur le crédit vendeur.
Donc, le crédit vendeur, oui, consiste de la part du cédant, quand il a en face de lui un repreneur qui a le profil idéal, mais qui manque peut-être d'apport pour aller lever la dette bancaire, de lui proposer finalement de ne pas percevoir la totalité de la somme de la vente tout de suite. Un crédit vendeur peut aller de 5, 10, 15, on arrive même à avoir des projets sur lesquels on peut arriver à 50% de crédit vendeur.
50% du prix de vente?
Oui. Sur des petits projets. Là, je ne parle pas juste, sur de la PME, mais sur des fonds de commerce, ça arrive très souvent, surtout lorsque le porteur de projet travaille dans la société. D'accord. Donc, quand on est dans le cas d'un repreneur qui est à l'intérieur, il connaît bien les rouages de la société, il a peu d'apports. Donc, on peut arriver à des montants de crédit vendeur assez, assez importants sur des sociétés de petite taille.
Est-ce que, justement, ce fameux crédit vendeur, donc je pense que vous avez compris le principe, en fait, c'est simple, hein, c'est le repreneur, au lieu de payer 100% cash, eh ben, va proposer au vendeur de lui payer peut-être 50, 60, 70% cash, et puis une partie échelonnée, donc d'où la terminologie, tout simplement, au lieu que ce soit le banquier qui prête, ben, c'est le vendeur. Voilà, et il prend en plus, il continue, entre guillemets, à être impliqué dans la vie de la boîte. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal, entre guillemets, d'avantages, en sens où les intérêts du cédant et du repreneur sont évidemment beaucoup plus intimement liés que dans le cas d'une reprise dans laquelle il n'y a aucun crédit vendeur. Est-ce que vous, dans vos expériences respectives, est-ce que c'est des choses, enfin, surtout en PME-PMI, est-ce que c'est des choses qui, le crédit vendeur, est-ce que c'est quelque chose qui se pratique toujours? Ou, comme on peut parfois l'entendre, c'est quand même un argument sur lequel il faut avoir un minimum d'arguments pour, de négociation. Dans quel cas ça fonctionne et dans quel cas, je dirais que c'est faut oublier?
Moi, de ce que je peux voir aujourd'hui, se pratique de plus en plus. Pour la banque, évidemment, c'est un très bon élément, car le cédant montre qu'il a une pleine confiance dans le repreneur. Donc la banque, évidemment, apprécie ses propositions de crédit vendeur, qui aussi lui permettent finalement de moins prêter, donc finalement de limiter son risque. Le côté qui quelquefois peut être négatif du côté du financement bancaire, c'est qu'un crédit vendeur en général se rembourse sur une période très courte. Donc lorsqu'une dette négociée avec la banque oscillera entre 5 et 7 ans, un crédit vendeur en général serait plutôt sur 2 ou 4. Donc ça sous-entend qu'il faut le rembourser plus vite. Donc le crédit vendeur fonctionne sur des sociétés saines qui ont un bon pouvoir de remboursement.
J'ajouterais une chose au niveau du crédit vendeur. Il faut bien le négocier, en fait. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne ces termes de remboursement, il ne faut pas que vous soyez pris à la gorge, parce que ce qui peut arriver dans certains cas où le cédant vous demande un remboursement effectivement relativement court, et compte tenu de la rentabilité à venir de la société, vous risquez de vous trouver dans des situations difficiles. Donc ça, tout est négociable, bien sûr. Autre chose, on voit dans certains cas où il est négocié avec le cédant au niveau de ses modalités de remboursement, compte tenu de l'atteinte, l'évolution d'un chiffre d'affaires, d'une rentabilité et autres, en fait. Donc tout ça, c'est la négociation, c'est la discussion. Sachez que tout doit être très souple pour vous. C'est d'y voir votre intérêt, bien sûr, qu'en fait. Les banques n'aiment pas toujours le crédit vendeur parce qu'ils disent qu'ils vont rembourser plus rapidement justement que le crédit bancaire, mais ça peu importe. Pour vous, l'essentiel, c'est de trouver les moyens de financer votre prise.
D'accord. Donc, avantages et inconvénients, j'ai envie de dire que là, on arrive quand même un petit peu au cœur du sujet, puisque la problématique de la reprise, c'est qu'effectivement, vous achetez une entreprise, que vous allez payer un certain montant. Je ne pense pas qu'ici, dans la salle, il y ait qui que ce soit qui puisse payer une entreprise, enfin, s'offrir une entreprise cash. Donc, tout le monde est dans une modalité, et c'est ce point-là qu'on va voir à présent, de toute façon, en plus d'emprunt bancaire. Et de toute façon, les points qu'on vient d'évoquer, hormis, je dirais, la remontée de trésorerie, qui est la possibilité de pouvoir capitaliser sur la trésorerie qui est dans la société cible. Hormis ce point-là, effectivement, la question, c'est qu'est-ce que je suis capable d'acheter et comment je vais pouvoir, moi, développer cette entreprise pour que, d'une part, je puisse rembourser mon emprunt bancaire et, en même temps, sans mettre en péril, je dirais, sans couper l'oxygène à cette fameuse entreprise, puisque c'est toute la question. Et c'est aussi, je pense, une des grosses questions qui va se poser avec le banquier ou avec n'importe quel partenaire financier, puisqu'à un moment donné, vos partenaires, eux, vont se dire, on vous prête tant et on attend d'être remboursé dans des délais, comme vous l'avez vu, qui vont entre 2, allez, jusqu'à 7 ans maximum. Donc vous avez finalement un laps de temps assez court. Je dirais tant mieux d'un côté, hein, c'est pas la peine d'y aller sur 20 ans, mais en même temps, ça vous met une pression sur 7 ans qui est assez importante. Et donc la question, ça va être, voilà, comment est-ce que je peux bâtir un plan de développement dans lequel, d'une part, je vais devoir continuer à faire tourner une entreprise dont je suis le nouveau dirigeant. Donc, oui, bien sûr que... Alors, en général, ça, on le verra, mais c'est vrai que quand vous reprenez une entreprise, vous croyez en vous, vous croyez dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'a priori, vous pensez même qu'il n'y a pas de raison de faire au moins aussi bien, si ce n'est beaucoup mieux que le dirigeant actuel. C'est pas toujours faux. On verra aussi que dans un certain nombre de cas, les entreprises que vous allez reprendre, pour différentes raisons, soit parce que le dirigeant souhaite partir à la retraite, soit parce qu'il y a des projets personnels qui diffèrent, etc. C'est vrai qu'à un moment donné, vous venez parce que vous avez un projet de développement. Mais la vraie question, et je pense que c'est là-dessus aussi que souvent, en reprise, la problématique du financement se pose. C'est d'une part, d'où la nécessité en tout cas de faire appel à des, je pense vraiment à des spécialistes, c'est qu'il va falloir faire des business plans comme vous n'en avez jamais fait de votre vie. Parce que à partir de là, toute la question, c'est, comme on l'a dit, c'est comment je vais maintenir mon chiffre d'affaires, comment je vais faire évoluer cette société et comment en même temps je vais pouvoir non seulement gagner de l'argent, mais surtout être capable d'assumer dès le début une dette. Et c'est vrai que l'entreprise que vous reprenez n'a peut-être pas de dette pour l'instant. Donc sa rentabilité avant reprise et sa rentabilité après reprise, c'est toute la question est là. Donc on va
juste pour rebondir sur ce que tu dis, Anne, et ayez toujours à l'esprit que le financement que vous allez solliciter, la dette que vous allez solliciter, c'est ce qu'on appelle une dette stérile. C'est une dette qui va servir à vous payer la société. Donc si on est sur des montages trop tendus, si vous pompez toute la rentabilité de la société d'exploitation, toute la capacité d'autofinancement et toute la trésorerie, vous n'allez pas avoir de réserve, vous n'allez peut-être pas prévoir le financement lié à son développement et à son et aux investissements au quotidien que vous allez devoir réaliser pour maintenir l'activité ou la développer. Et ça, c'est une notion qui est très très importante. D'où l'idée de ne pas être sur des montages trop tendus. Et on voit malheureusement aujourd'hui plein de LBO qui explosent parce que sur les montages qui ont été faits il y a 1, 2, 3 ans, on était trop tendu. Et avec la crise qui se précise, on avait plus de marge de manœuvre.
Oui, une question ? Alors on va rentrer dans tout ce qui est emprunt bancaire, on rentre justement dans le cœur du sujet. Donc le financement bancaire, quelles sont les typologies, de quoi vous avez besoin, quels sont les taux acceptables, pas acceptables. Alors je vais déjà passer la parole à Jean-Philippe Deltour. Juste en deux mots, un petit mot sur le métier peut-être, parce que il n'y a pas de banquier autour de cette table aujourd'hui, ça aurait pu, hein. C'est pas que j'ai pas pu en inviter, mais disons que ce qui était intéressant aussi, c'est l'approche que Jean-Philippe Deltour a, c'est juste nous dire un mot sur le métier du courtage, du courtage en financement en particulier, parce que courtage en prêt immobilier, je crois que tout le monde connaît, mais en financement d'entreprise, je suis pas sûre.
Oui, c'est vrai que autant le courtage en financement particulier existe depuis une quinzaine d'années. Et 20% des actionnaires à propriété passent par ce type de courtier. Celui qui consiste à accompagner les professionnels dans leur projet est plus nouveau. Donc depuis 4 ans, nous accompagnons les entrepreneurs en recherche de financement. Nous avons une vaste typologie de clientèle qui va donc de la PME existante qui peut réaliser de la croissance externe, ou des acquisitions immobilières, aux repreneurs de sociétés, donc ce que l'on vient de voir, le LBO. Nous intervenons aussi dans le monde de la franchise, où nous accompagnons des nouveaux franchisés dans le développement de leur enseigne, ainsi que dans les fonds de commerce, les artisans commerçants. Donc nous sommes, un conseil généraliste qui accompagne tout type d'entrepreneurs. Nous vous accompagnons sur des recherches de financement de parts sociales, de fonds de commerce et de projets liés à l'immobilier professionnel. Notre métier consiste donc à identifier avec vous votre projet, identifier qu'il est réellement faisable, et nous vous orientons ensuite dans la manière dont il faut organiser et monter le dossier de financement. Lorsque ce dossier est réalisé, nous identifions quels sont les partenaires bancaires qui sont les mieux identifiés, les mieux appropriés, pardon, à votre projet, et nous leur soumettons les dossiers. Sachant que
ça veut dire, en fait, pour faire simple, ça veut dire, en fait, la différence avec un repreneur qui va faire ses démarches de recherche en financement tout seul, donc je vais aller voir, je sais pas, le Crédit Agricole, puis la BNP, etc. Vous disposez à la base d'un réseau donc de financement avec tous les réseaux, enfin d'un partenariat ou d'un accord avec tous les réseaux bancaires.
Voilà, depuis 4 ans, on a étudié des centaines et des centaines de dossiers à travers la France, et donc nous avons tissé un réseau bancaire. Mais différent de celui que l'entrepreneur individuel pourra approcher, parce que la démarche du repreneur individuel est de rentrer dans une agence, il n'a pas de contact particulier, et Nous, nous passons directement par des pôles d'analyse au niveau régionaux ou nationaux qui sont donc destinés à se positionner rapidement sur le risque. Donc c'est des pôles qui ont le pouvoir de décision, donc qui déjà donc vont permettre d'accélérer.
D'accord.
Les réponses.
Ça irait a priori plus vite avec une société, avec un intermédiaire, qui, j'imagine bien sûr qu'on va rémunérer, hein, y a pas de... Et donc ça va aller plus vite avec un intermédiaire que peut-être en direct soi-même.
Ça devrait aller plus vite, c'est pas toujours le cas, parce que quelquefois, on peut, le temps n'est pas forcément l'atout majeur, quelquefois en passant par nos services, mais ce qui est essentiel, c'est d'aboutir, et nous vendons une solution globale. Le temps peut en faire partie, mais il y a d'autres paramètres qu'on pourra voir après.
D'accord. Alors justement, pour revenir à la question qui nous intéresse, quels sont les éléments essentiels et incontournables lorsqu'on veut faire une demande de financement bancaire ?
Donc déjà, avant de parler de financement, ce qui est essentiel, c'est lorsqu'on a identifié une cible, c'est de se mettre d'accord avec un repreneur sur un prix, évidemment, et de s'être entouré d'un conseil qui le valide. Donc passer par un expert comptable ou demander conseil, par exemple, à une société comme la nôtre qui déjà va pouvoir valider qu'avec l'apport que vous avez aujourd'hui, on peut très bien envisager trouver un financement bancaire. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est de constituer un dossier complet. Donc ça peut paraître un petit peu simple.
Excusez-moi, Jean-Philippe, mais c'est vrai que c'est un point important. L'autre jour, je discutais avec des futurs repreneurs qui me disaient que c'était quelqu'un qui cherche un... Pardon, hein, c'est un petit aparté, mais... qui recherche un fonds de commerce, un restaurant sur Paris. Et en fait, cette personne me disait que l'aspect financement, en fait, devenait extrêmement important, en particulier aujourd'hui, mais qu'il y avait beaucoup de gens qui, aujourd'hui, allaient jusqu'au bout pensant qu'ils obtiendraient le financement et qu'il y avait finalement beaucoup de dirigeants, de cédants qui, aujourd'hui, commençaient à d'entrée poser la question du financement parce qu'effectivement, les repreneurs se posent pas forcément la question, se disent « bah ça passera, il n'y a pas de souci ». Et il y en a beaucoup qui se retrouvent, et côté cédant d'ailleurs, et côté repreneur, parce que la mauvaise nouvelle, elle est souvent pour les deux, parce qu'a priori, si les dirigeants étaient prêts à céder à celui-là, c'est qu'il espérait que ça se fasse. Et c'est vrai que cet aspect, pardon, mais je réagissais par rapport à ce que vous disiez, validation du projet auprès de votre banquier et auprès de conseillers qui vont pouvoir vous dire « oui, a priori, votre plan de financement... » Il faut savoir que ces conseillers, c'est des gens qui voient passer des montages toute l'année, quoi. Donc, par rapport à vous, l'implication que vous allez avoir sur le projet, forcément, vous y croyez. Eux, ils ont du recul et ils ont aussi tout simplement une expérience quantitative par rapport à la typologie des projets, par rapport à votre profil. Comme disait Hugues Franc tout à l'heure, l'aspect humain va compter. Donc, parfois, il y a certains dossiers qui vont passer parce qu'il y a une vraie adéquation entre le repreneur et son projet. Donc voilà, cet aspect, je dirais, de pas forcément attendre le dernier moment me paraît important, même si pour présenter son dossier, comme on va le voir, il faut être vraiment en toute fin. Excusez-moi, Jean-Philippe,
je vous laisse continuer. Donc c'est vrai qu'un dossier, le banquier étudie le dossier suivant trois axes. Premièrement, le profil du porteur de projet, son expérience passée et en gros, le porteur de projet... A-t-il le profil en adéquation avec la société ou le projet qu'il entreprend ? Le second sera l'apport personnel. Est-ce que l'apport aujourd'hui qui a été identifié, alors que ça peut être, comme on précisait tout à l'heure, de l'argent propre, ça peut être ensuite de l'argent apporté par des partenaires investisseurs. Ça peut être aussi de la trésorerie excédentaire, donc ces différents points sont identifiés comme de l'apport. Donc l'apport est le deuxième axe. Le troisième est la rentabilité de la cible. Donc rentabilité déjà soit existante, parce qu'on identifie que cette société, depuis quelques années, générait ce chiffre d'affaires ou ces résultats. Et ensuite, on va identifier par rapport à l'homme ou la femme qui reprend le projet, ce qui va amener en plus. De par son expérience passée, de par ses projets de développement, on peut déjà identifier ou on peut prouver aux banquiers que sur tel axe, on va réellement apporter des solutions. Prenons l'exemple d'un profil d'un porteur de projet qui plutôt était jusqu'à présent acheteur. Peut-être qu'il va trouver des solutions pour que sur la cible, les achats soient mieux réalisés, donc il y aura un meilleur résultat. Ou une personne qui a un profil commercial, sachant qu'aujourd'hui peut-être le dirigeant ne l'est pas, donc il va apporter
Par rapport à ça, quel est le niveau d'interrogation du banquier sur justement la capacité du repreneur à développer l'entreprise ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une analyse sur de retraitement des chiffres ou est-ce que finalement le banquier voit ça d'assez loin ?
Non, il y a toujours une analyse de retraitement de chiffres. La principale, c'est souvent le salaire de l'ancien dirigeant. Logiquement, lorsque l'on cède une société, si elle était en bonne santé ou si elle est en bonne santé, le dirigeant se verse en général une bonne rémunération. Donc c'est une des dépenses qui est amenée à être traitée. Car logiquement, le repreneur est moins gourmand, on va dire, en termes de rémunération. Mais il peut y avoir aussi d'autres paramètres et d'autres types de dépenses qui sont identifiés. Donc ça, c'est évidemment, ça fait partie aussi du montage du dossier où on identifie les économies potentielles qui vont permettre évidemment de rembourser l'emprunt que l'on va prendre.
Donc alors dans le dossier financier, donc ce qu'il faut au minimum, c'est ce qu'on voit, ce qui est indiqué ici sur la présentation.
Il faut évidemment donc une bonne, il y a trois axes, donc une bonne présentation du porteur de projet lui-même, donc son passé, son CV et tous les éléments financiers, on va peut-être pas tous les voir, mais bon, le banquier qui ne vous connaît pas souhaite avoir des indications sur votre rythme de vie. Voilà, soyons clairs, c'est les mots. Donc, il va demander des informations assez personnelles qu'il faut lui dévoiler, qui concernent des comptes bancaires ou des avis d'imposition. Ensuite,
État du patrimoine.
État du patrimoine, évidemment. Sur la cible, évidemment, il est essentiel d'avoir les derniers bilans. Dernier bilan, liasse fiscale bien détaillé et aussi d'avoir établi un prévisionnel cohérent. Ensuite, aussi sur la cible, il faut tous les éléments. Par exemple, on a souvent sur les sociétés, les sociétés ne sont pas toutes propriétaires et vous n'aurez pas l'opportunité quand vous rachetez une société tous de pouvoir en même temps racheter l'immobilier. Donc il y a un bail commercial qui est essentiel. Car il est signé souvent sur une période qui oscille entre 3 et 9 ans. Donc il est intéressant, lorsque vous reprenez une société, de bien valider où se trouve le bail commercial dans sa durée. Et lorsque vous approchez de la fin des 9 années, il est intéressant aussi de renégocier ce bail. Car le banquier qui verra un bail qui arrive à la fin et qui était peut-être à des conditions intéressantes, sera un petit peu suspicieux sur le prix qui pourrait être renégocié dans les années à venir. Donc c'est essentiel de renégocier un bail. Aujourd'hui, pour faire un petit point des banques et de leur position, sur la fin de l'année, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est vrai que les banques ont été un peu sévères et ont vraiment rendu l'accès au crédit plus difficile. Mais ce que je peux voir depuis le début du mois, c'est une ouverture des banques à ce niveau-là et surtout une baisse des taux. Les taux auraient pu baisser plus vite parce que déjà depuis le mois de décembre, les banques se refinancent à des conditions intéressantes. Il a fallu un peu de temps pour que ça rentre dans le système. Donc là, aujourd'hui, on voit des banques qui, on va dire, qui jouent le jeu.
Est-ce que par rapport à ça, vous pouvez nous donner une fourchette des taux aujourd'hui qui sont...
Alors tout dépend si on est sur du fonds de commerce ou des parts sociales, parce qu'on arrive toujours à avoir des taux plus intéressants sur des fonds de commerce que sur des parts sociales. Mais pour donner une fourchette, au mois de novembre, nous étions sur des taux qui oscillaient entre 5 et 6. Donc on arrive à avoir un écart d'un point entre les partenaires bancaires. Là, récemment, la semaine dernière, on vient de négocier un financement à 4%. Donc aujourd'hui, on a des écarts qui oscillent plutôt entre 4 et 5,5. Mais il ne faut pas seulement se focaliser sur un taux. Moi, personnellement, ce n'est pas, à mes yeux, le taux qui est le plus important, car comme on l'expliquait, le taux sont des charges déductibles. Mais nous, ce que nous recherchons pour nos clients, c'est une solution globale. Donc dans un projet professionnel, il y a le taux. Il y a une caution, il y a des garanties, il y a des assurances. Et ensuite, allons plus loin. Lorsqu'on a réalisé le projet, on a des charges quotidiennes avec la banque, qui sont des frais de tenue de compte. Et c'est tous ces éléments qu'il faut identifier. Il ne faut pas juste bloquer sur un taux. Il faut identifier vraiment tous les paramètres. Et c'est tous ces paramètres qu'il faut négocier avec un banquier dès le début. Et souvent, le taux est noyé. Et on remarque qu'on peut réaliser des économies ailleurs.
Alors justement, pour... Pardon ?
Nous avons une approche commerciale assez audacieuse, que nous travaillons au résultat. Donc nous allons identifier déjà votre projet et voir quels sont les partenaires que vous avez pu déjà avoir sollicités. Car quelquefois, lorsqu'on rencontre des porteurs de projet, le projet est peut-être en cours. Donc du moment où on identifie qu'il reste des partenaires que nous pouvons aller démarcher et des partenaires auprès desquels nous pensons obtenir des bonnes conditions, nous prenons votre dossier et nous partons sur une rémunération au résultat qui oscille entre 1 et 2% suivant les projets. Donc en quelques mots, c'est nous qui prenons le risque, pas vous. Et si on accepte votre dossier, ça veut dire qu'on y croit, parce qu'on va s'investir et aller chercher un financement professionnel, c'est pas aller chercher un financement particulier. Ça demande du temps.
Alors, je voudrais qu'on... Pardon ?
Alors,
excusez-moi, est-ce que vous avez entendu la question ? Ok, alors je la répète parce que sinon pour le fond de la salle, c'est pas... alors la question de monsieur, c'est de dire en fait quel est le délai, quel temps s'écoule-t-il entre le moment où je fais mon business plan et le moment où j'obtiens l'accord du banquier en gros pour... Pardon, même plus que l'accord du banquier, déblocage des fonds, tout à fait. Donc quel est le délai entre business plan et déblocage des fonds ?
Alors premièrement, il faut que le dossier soit complet. Donc nous, lorsque nous entrons en relation avec un porteur de projet, soit par téléphone ou soit par une rencontre physique, on lui transmet une liste de documents exhaustifs à ce projet. Donc lorsque nous avons reçu toutes les pièces et que le dossier est complet, nous, il faut compter 2-3 jours pour constituer le dossier, suivant les périodes de l'année. Nous le transmettons à nos partenaires bancaires et ensuite les réponses bancaires, si on est sur du fonds de commerce, on peut répondre en une semaine avec certaines banques. Si on est sur de la PME, on sera plutôt sur 2-3 semaines. Sachant que nous ne donnons pas des accords de principe, et si je peux vous donner un conseil, c'est méfiez-vous des accords de principe quand vous rencontrez un banquier qui vous dit « je vous donne un accord de principe », un accord de principe n'a aucune valeur. Et le nombre de personnes qui viennent me voir, qui me disent « j'ai un accord de principe de ma banque » et je leur dis « attendez, allons voir d'autres banques, essayons », et en finalité, la banque qui avait donné son accord de principe ne suit pas, ça arrive très souvent. Donc,
En termes de délai, je pense que...
Donc on va dire un mois pour obtenir le financement et ensuite un mois. Je termine. Donc je vous dis donc 2-3 semaines pour obtenir les accords fermes, et je me permettais de faire la nuance avec les accords de principe. Ensuite, le déblocage des fonds. Va falloir aller chercher les assurances, donc tout dépend si on passe par l'assurance de la banque ou si on a été chercher une délégation qui permet d'économiser, mais quelquefois prend un peu plus de temps. Il faut compter un mois derrière, en moyenne, voire sur des LBO un mois et demi pour derrière organiser le déblocage des fonds. Donc un projet en moyenne, du moment où on reçoit le dossier, on va dire 3 mois.
De toute façon, ça prend du temps, oui, effectivement, ça se fait pas en...
Surtout sur des parts sociales. 3 mois sur des parts sociales, c'est déjà bien géré. Parce que c'est déjà bien géré si ça se fait en 3 mois. Et ensuite, ça peut être plus long, suivant le nombre d'intervenants qu'il peut y avoir. Quoi. Là, on a récemment réalisé un projet qui est un joli cas d'école. C'était sur le mois de décembre, où un porteur de projet qui reprenait une très belle société sur Paris est en contact avec une banque, mais qui lui donnait pas satisfaction. Et sur ce projet, on a fait intervenir un petit peu toutes les solutions dont on a parlé tout à l'heure. L'apport personnel du porteur de projet, on a fait une remontée de trésorerie, on a fait intervenir OSEO en cofinancement.
Est-ce qu'on peut profiter de l'exemple pour expliquer ce que... Enfin, je voudrais... au-delà de l'exemple, pour revenir quand même, Jean-Philippe, excusez-moi, sur enfin, si on a répondu à monsieur, mais je pense que c'est le cas. Pour revenir sur les caractéristiques justement d'un financement bancaire et en particulier ce que vous disiez au début, Jean-Philippe, c'est-à-dire que bon, le taux c'est important, la question avait été posée, mais ce qui est aussi très important, c'est d'autres aspects de la négociation et je voudrais qu'on revienne sur un peu le package qu'il faut négocier. Et on parlera ensuite de donc sur les, je voudrais qu'on parle là, qu'on aborde l'aspect garantie. Parce que je pense que là, tous les reprenants, enfin toutes les personnes qui sont dans la salle se retrouvent un jour ou l'autre confrontées à ce problème-là. C'est que on est venu pour négocier un taux et on se retrouve à se demander si on laisse la maison, plus la caution de sa femme, plus voilà. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qui peut négocier et qu'est-ce qui existe? Alors là, je passe la parole soit à Stéphane, soit à Jean-Philippe, parce que je sais que.
Donc aujourd'hui, un banquier, quand il a face à lui un repreneur qui entreprend pour la première fois, c'est rare qu'il aille tout seul et qu'il prête la dette sans s'appuyer sur un organisme de cautionnement. Donc les organismes de cautionnement, comme Oseo, qui est un des intervenants principaux sur les opérations de part sociale, sur les opérations de fonds de commerce, il y a Oseo qui intervient, mais il y a aussi des sociétés comme la CIAJ qui interviennent. Ces sociétés sont destinées à venir garantir le prêt que la banque va vous octroyer. Donc si demain il y avait un souci majeur sur le remboursement, la banque, on va dire, est protégée. Donc Oseo est un organisme qui est incontournable aujourd'hui dans le financement des parts sociales et qui peut intervenir à deux niveaux. Donc en contre-garantie, comme je le précisais, donc prenons un exemple, nous avons un projet sur lequel, reprenons le projet de 900 000 euros avec 300 d'apport, on finance 600, Oseo interviendra en garantie à 50%. Donc c'est-à-dire que, voire 70 si la région aussi suit. Donc prenons le cas de 50% qui est le plus commun. Donc sur un projet à 600 000, il y aura une caution de 50%. Et donc derrière, la banque qui souhaite de toute façon avoir une caution sur la totalité de l'emprunt qu'elle donne, demandera au porteur de projet d'être caution personnelle seulement sur les 50% restants.
Voilà. Et ça, je pense, enfin, je sais pas, pour vous, en fait, on pense pas forcément au moment où on va voir son banquier, effectivement, que c'est, enfin, je pense que la problématique de la garantie bancaire est beaucoup plus lourde et beaucoup plus lourde de conséquences, surtout qu'effectivement le problème du taux où on va gagner peut-être 0,25% sur 7 ans. Enfin, même si on est sur des montants importants, l'impact peut être beaucoup, enfin, est beaucoup moins, me paraît à mon avis, beaucoup moins grave et on est. Enfin, bon, c'est important de négocier ça et surtout de l'anticiper. Et là aussi, donc pour revenir simplement, donc d'où l'intérêt aussi des prêts d'honneur tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que ce sont des prêts effectivement par principe sans garantie. Et je voudrais peut-être la repréciser simplement une chose aussi sur un des prêts qui est proposé par. Alors, je crois qu'on l'avait noté là. Voilà, dans ce qu'on appelle les prêts bancaires aidés. Ce sont justement des prêts bancaires qui vont vous proposer soit des taux avantageux. Et c'est en particulier des prêts qui sont proposés par Oseo, puisque Oseo, effectivement, c'est un organisme bancaire, certes, mais qui est dédié au développement des PME et qui est financé quasiment à 100% par des acteurs publics, donc par l'État, d'où, effectivement, son rôle et son positionnement un peu particulier par rapport au développement des entreprises. D'où, effectivement, le fait d'un certain nombre de prêts, comme le prêt à la création d'entreprise, le PCE, là, on est sur des petits montants, maximum 7 000 euros, mais là, on est sur l'équivalent, c'est un prêt sans garantie, avec un taux... plafonné. Et il y a le contrat développement-transmission qui, là aussi, peut être intéressant dans le cadre d'une reprise, soit de fonds commerce, d'ailleurs, soit de part sociale, parce que je crois qu'il finance les deux.
Bien sûr.
Et qui va permettre, voilà, pareil, avec... qui va vous proposer, en fait, ça va de 40 000 à 400 000 euros, je crois, avec 2 ans de franchise.
C'est ça. Pour permettre, éventuellement, s'il y avait un crédit vendeur, d'être remboursé dans un premier temps. Donc, il y a 2 ans de franchise.
Donc, ça aussi, j'ai envie de vous dire... Enfin, c'est important que vous ayez l'information en amont parce que votre banquier peut vous le proposer comme parfois il peut ne pas forcément vous le proposer. Donc pareil par rapport au principe de cautionnement et de garantie bancaire, les organismes qu'on a évoqués, CIAJ, Socama, Oseo, selon le contact, le premier niveau de contact que vous allez initier, vous n'allez peut-être pas tout de suite avoir accès à cette information. Donc c'est important que pour vous ce soit une modalité, voilà, dans votre plan de financement, que ce soit clair qu'il faut que vous allez pouvoir y faire appel.
Moi, je dirais juste, effectivement, comme Anne le soulignait, c'est très important pour vous de contacter l'organisme OSEO de votre région, en fait. Hein, parce que OSEO, c'est un outil fabuleux, en fait, qui permet effectivement de contre-garantir, comme disait Jean-Philippe, les prêts bancaires, de limiter votre caution. De toute façon, dans tous les cas, votre caution, il faut la négocier, en fait. Hein, il n'y a pas de raison. C'est tout à fait normal de laisser une caution, en fait. Mais il faut la baisser le plus possible. Hein, donc ça, c'est une question un peu de rapport de force avec votre banquier, mais c'est possible. On y arrive dans certains cas. Ça dépend de votre interlocuteur. Et comme Anne le disait, OSEO est très avantageux, effectivement, sur ce fameux contrat. Je crois qu'il doit être systématiquement adossé à un prêt bancaire. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est important de le préciser. Comme le prêt d'honneur, il est forcément, effectivement, ils n'interviennent jamais tout seuls en financement. En prêt bancaire, ils viennent toujours en complément d'un autre établissement. Alors, je pense que... est-ce qu'il y a de dernières choses à préciser par rapport aux garanties demandées ? Est-ce que vous avez des choses à préciser là-dessus ? Ou par rapport surtout au financement bancaire, avant qu'on passe à la dernière partie ?
Sur le financement, un dernier point, deux éléments que je souhaiterais souligner. Les banquiers, depuis donc quelques mois, vont regarder les dossiers un petit peu différemment et vont surtout se concentrer sur le BFR. De votre projet. Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement, qui en fait là, c'est le montant de cash dont on a besoin pour faire face au décalage qu'il y a entre les paiements des clients et des fournisseurs. Donc plus que jamais aujourd'hui, les banquiers regardent ce poste, donc qui doit être identifié avec finesse et qui doit prendre compte aujourd'hui la réalité actuelle. Prenons un exemple, je pense qu'aujourd'hui une société a plus de chances d'avoir des clients qui le payent en retard, qui la payent en retard, plutôt qu'il y a, il y a 6 mois. Donc un repreneur doit identifier ce risque. Et le BFR qu'on pouvait peut-être choisir, calculer, voici 6 mois pour la reprise d'une cible, n'est plus le même aujourd'hui. Donc montrer qu'on a bien identifié ce point, l'inclure dans son business plan est essentiel. Le deuxième point, je dirais, pour conclure sur le financement, je pense qu'en 2009, il faudra être ingénieux. Et c'est ceux qui seront ingénieux qui trouveront des solutions. Et donc, ne pas être seul et se faire accompagner. Et surtout, aller identifier et s'appuyer sur les différentes sources d'apport qu'on a pu citer pour, derrière, aller convaincre un banquier. Car seul aujourd'hui, avec des apports très faibles, des appels on a tous les jours, des porteurs projets qui sont sûrement qui ont toutes les qualités, mais qui se retrouvent avec un apport faible, il n'y aura pas de financement. C'est triste à dire, mais si on se trouve avec des apports qui sont insuffisants, vous pourrez aller voir toutes les banques, il n'y aura pas de financement.
Bon, sur cette note optimiste, c'est vrai, elle est optimiste. Ouais.
Ça dépend sur quel type de projet.
Enfin voilà, c'est possible. Ça,
c'est possible. C'est possible. Là, l'exemple dont je parlais, oui, récemment, le porteur de projet a mis 10% parce que la cible était bonne et parce que derrière, elle avait la capacité de rembourser et parce que les partenaires ont joué le jeu et qu'OSEO a prêté, qu'un capital risqué a monté au capital. Donc ensuite, tout dépend des projets. Donc avec 10%, oui, c'est possible. Mais attention, pas tous les projets, quoi.
Et je voudrais préciser une chose, c'est que c'est vrai que parfois, vous allez pouvoir convaincre un banquier. Enfin, faut pas. Le but, c'est pas de dire le banquier, c'est pas la bête noire de notre conférence. L'idée, c'est de dire que le mot clé pour un banquier, c'est déjà est-ce qu'il va vous suivre. Mais surtout, je pense que tous les chefs d'entreprise qui sont dans la salle le savent, c'est que la problématique après, c'est la trésorerie. C'est-à-dire qu'après un banquier, lui, il va, une fois qu'on aura discuté, qu'on a fait les plus beaux business plans de la Terre, c'est tous les mois combien il y a sur le compte. Et ça va être ça la réalité. Donc on peut avoir un super emprunt à 8 ans, très très bien négocié avec des belles garanties. Mais si dans 6 mois, vous avez 600 000 de trous et que ce n'était pas du tout prévu, mais il n'y a plus. Enfin. Donc, et ça, c'est la réalité d'un chef d'entreprise au quotidien. Donc je pense qu'avant la crise, la trésorerie, c'était le nerf de la guerre. Bah, avec la crise. C'est la centrale, c'est la colonne vertébrale, quoi. C'est-à-dire que le problème de la trésorerie se pose 3 fois plus. Donc, c'est vrai que on va pouvoir trouver des banquiers qui, à un moment donné, vont pouvoir aller plus loin, peut-être que certains ratios. Nous, ce qu'on vous donne, c'est des ordres de grandeur qui, toutes les personnes qui sont là voient des chefs d'entreprise toute la journée. Et il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Mais surtout, le problème, c'est ce que je pense, c'est aussi ce que voulait dire Jean-Philippe, c'est que la trésorerie, c'est le BFR, c'est la même chose. C'est donc Et en reprise, il y a l'agent qui avait l'habitude de rentrer, mais enfin, c'est comme dans toute vie d'entreprise, c'est la trésorerie. Et le banquier va particulièrement faire attention à ça parce que il vous appellera pas tant que vous serez, tant que vous rembourserez vos mensualités, tant qu'il y aura de l'argent sur le compte, vous inquiétez pas, le banquier, vous pouvez ne pas en entendre parler pendant des mois, même si vous avez trop d'argent sur le compte Si c'est pas vous peut-être si c'est pas vous qui l'appelez pour lui dire tiens en fait j'avais un peu plus d'argent que prévu, qu'est-ce qu'on en fait? Mais le problème, c'est la trésorerie. Et aujourd'hui, les entreprises qui souffrent le plus de la crise, c'est pas seulement il y a d'abord celles qui perdent du chiffre d'affaires, enfin qui perdent des clients, mais il y a toutes celles derrière qui vont pas avoir les moyens de faire face aux délais de paiement, etc., etc. Donc cet aspect-là me paraît très important. Alors peut-être que ça nous permet, je vais faire une petite transition pour passer au dernier point. Pour éviter que votre trésorerie ne soit trop tendue, effectivement, c'est-à-dire de partir avec peut-être insuffisamment de réserves au départ, il peut être intéressant de compléter vos apports, le financement bancaire, le prêt d'honneur, par effectivement faire rentrer un investisseur privé. Alors c'est une démarche un petit peu spécifique qui nécessite souvent pas mal de préparation. Là, on a vu que les délais en termes de financement bancaire, c'est jamais du jour pour le lendemain. C'est vrai que nous ici, on a déjà tous vu des chefs d'entreprise qui nous disent voilà, il me faut des sous il me faut débloquer le montant pendant un mois parce que l'affaire est assez... Bon, ça prend toujours beaucoup plus de temps que ça. Donc, je voudrais, qu'on aborde ce dernier point. Donc, comment est-ce qu'on peut associer un fonds d'investissement à une reprise d'entreprise, Stéphane?
Alors, un projet avec un fonds d'investissement, c'est un autre projet. C'est un projet dans lequel vous n'êtes plus tout seul. Il y a un partenaire financier qui va forcément rechercher un retour sur investissement. Donc, vous n'êtes plus le seul maître à bord. Il faudra faire des reportings, il faudra tenir les objectifs. Et il y a des conditions de sortie qui sont fixées dès le début. Hein, les règles du jeu sont fixées dès le début, mais qui sont quand même assez drastiques. Alors... Fonds d'investissement, on peut différencier quatre types de fonds d'investissement. On a des gros fonds d'investissement qui n'interviennent pas en dessous d'1 million d'euros. Donc leur ticket d'entrée, c'est minimum 1 million d'euros. Et de toute façon, ils resteront minoritaires. Donc ils prendront.
C'est combien à peu près en fait un fonds d'investissement? Enfin, j'imagine que ça dépend, mais combien
en termes de prise de participation? Souvent, c'est minorité de blocage.
D'accord. Oui, donc quand on est à 1 million de tickets d'entrée, on est à, disons, 10-15% de... Enfin, on est sur un rachat d'entreprise qui est minimum
entre 15-25.
Voilà, 15 et 25 millions d'euros.
Donc, c'est prise de participation, sachant que eux, ce qu'ils cherchent derrière, c'est un retour sur investissement relativement rapide, entre 5, maximum 7 ans. Donc, il faudra prouver à ces fonds que vous êtes capable de booster l'entreprise et qu'à la limite, tout le monde sort au bout de 5 ans, au bout de 7 ans. Donc vous boostez l'entreprise pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, vous réalisez votre plus-value, et éventuellement, vous passez à autre chose. À moins qu'il y ait ce qu'on appelle après des LBO secondaires. Vous trouvez d'autres investisseurs, ou dans certains projets aussi, il y a les dirigeants repreneurs qui reprennent les parts, quand ça se passe bien, des fonds. Donc on a les gros fonds... qui n'interviennent pas en deçà d'un million d'euros. Vous avez quand même pas mal de ce qu'on appelle des fonds de proximité ou des fonds familiaux qui, là, interviennent sur des tickets beaucoup plus raisonnables. Et ça peut descendre à 200 KE, entre 200 et 1 million d'euros. Il y a encore quelques années, il y avait peu de monde sur cette tranche. On commence à voir pas mal de petits fonds familiaux investir sur ce genre de tickets. Et là, notre rôle, c'est, on les connaît, ces fonds, notre rôle, c'est aussi de vous orienter vers ces interlocuteurs le jour où vous en avez besoin. On parle aussi de business angel, ça peut être une troisième alternative. Le business angel, généralement, intervient sur des tickets beaucoup moins importants, ça peut être 10 KE, 20 KE, 30 KE, 40 KE. Le risque, c'est de se retrouver après au capital de votre société avec un nombre d'interlocuteurs, je dirais, ingérable. Donc là, après, il faut aussi faire des choix. Et quatrième type de fonds ou identifié fonds, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est les fameuses holdings ISF. Que ce soit des gens, investisseurs, personnes physiques, ou qui se regroupent au sein d'une fameuse holding ISF, qui prennent une participation au niveau de votre holding de reprise. Et donc là, je vous dis, avec la loi TEPA, c'est vraiment une nouvelle manne de financement qui s'ouvre à vous. Et là, on est sur des tickets d'entrée entre 300 KE et 1 million d'euros. Donc ça reste relativement intéressant. Mais là encore, c'est un projet où vous n'êtes plus tout seul. Hein, donc il faudra rendre des comptes, il faudra prévoir dès le départ les conditions de sortie.
De toute façon, ouais, pour réagir par rapport à ça, je pense qu'il y a aussi à un moment donné la nécessité on sort même largement des sources de financement, mais dans le financement, vous allez devoir dimensionner en tant que repreneur votre projet. Et ça, vous pouvez le faire très en amont finalement. Hein. C'est-à-dire dimensionner votre projet en termes de taille, de chiffre d'affaires, de prix. Et en termes d'effectifs aussi, c'est-à-dire que, en fonction de votre expérience, de votre parcours professionnel, il va être important aussi, pour être crédible vis-à-vis éventuellement d'ailleurs d'un éventuel fonds, il va être important très tôt, dès le tout début de votre démarche, de dimensionner votre projet. Et l'aspect financement va vous aider à le faire, c'est-à-dire que, mais c'est pas la seule clé. Les critères sont globaux, c'est-à-dire on ne reprend pas une entreprise à 15 millions d'euros avec 80 personnes ou 30 personnes comme ça du jour au lendemain. On se rend compte, nous, dans les études qui sont faites par rapport aux désirs et en tout cas aux ambitions des repreneurs au départ, que la plupart des repreneurs veulent d'entrée une entreprise avec 15, 20, 30 salariés. Et dans la réalité, d'abord, ce n'est pas forcément ce qu'ils vont trouver sur le marché, ce n'est pas forcément ce qu'ils vont avoir les moyens de s'offrir au départ, au démarrage, et on se rend compte d'ailleurs que sur la transmission, sur la reprise, les grosses reprises vont être davantage, enfin, il y a très peu, il n'y a plus de repreneurs personnes physiques, on est simplement sur de la reprise personne morale, et je dirais qu'il y a aussi dans la reprise d'entreprise des niveaux dans lesquels, en fonction de la taille de votre... comment dire, de votre surface personnelle, déjà, vous allez pouvoir ou pas accéder à tel type de cible. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir... Si vous êtes en tout début de votre démarche et que vous êtes en train de vous dire, ah ben moi, je... voilà, vous avez... ça c'est quelque chose qu'on peut en tout cas, nous, au niveau des CCI, qu'on va vous aider à calibrer assez rapidement en vous disant, voilà, quelles sont les informations sur le marché, quelles sont les entreprises à vendre, combien ça coûte, et puis au-delà de pouvoir calibrer ça de façon intéressante. Alors, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Je vous propose, je vois des mains qui se lèvent, donc je vous propose effectivement de prendre un petit peu de temps pour des questions, si vous le souhaitez. Alors, attendez, excusez-moi, est-ce que... Christelle n'est pas dans la salle, parce que normalement, il y a un micro. Sinon, est-ce que vous pouvez simplement me la poser, parce qu'on n'entend pas. Alors, la question concerne comment contacter les fameuses holdings dites ISF. Qui veut... oui, bien sûr, comment...
Alors, c'est relativement récent, donc il n'y en a pas non plus énormément, mais on a des contacts à vous donner. Donc,
excusez-moi,
là,
je fais juste une petite pause, je vois plein de gens qui quittent la salle. Juste une petite précision, j'en profite pour faire mon petit speech. Les documents qu'on voulait vous laisser, on n'a pas pu vous les donner. Donc si vous souhaitez en savoir plus, on vous donne rendez-vous sur le stand Entreprendre en France CCI, le stand numéro 237. Toute la documentation sera là-bas, on est désolé, mais c'est le salon qui nous les a perdus. Niveau 2, donc c'est juste en dessous exactement, on a des conseillers qui sont là, le réseau Entreprendre est aussi sur le salon, Crédit Relax, vous pourrez le retrouver sur le stand aussi Entreprendre en France, voilà, pour ceux qui ont d'autres impératifs tout de suite. Et on revient à la question, excusez-moi.
Oui, donc des holdings SF, il n'y en a pas non plus, c'est relativement récent, hein, donc on peut déjà, nous, vous orienter vers des interlocuteurs qu'on connaît. Ça peut être holding ISF, ça peut être aussi des investisseurs privés, hein, mais qui sont à l'ISF. Et là aussi, nous, on en rencontre de plus en plus des gens qui nous disent, voilà, moi, j'ai 1 million d'euros en défiscalisation, je m'intéresse à la reprise d'entreprise. Est-ce que vous avez des projets à me présenter ? La seule chose, c'est qu'il faut aller voir ces gens-là avec un projet déjà ficelé. Et ce qui est important aussi, c'est la légitimité. Donc, il faut aller les voir avec un dossier. Et ce qu'ils vont beaucoup regarder, c'est un peu... que disait Jean-Philippe sur l'adéquation de projet, c'est la légitimité que vous avez sur un secteur d'activité donné. Donc, il regarde beaucoup cela.
J'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que la société Crédit Relax là, contacte des holdings, des SF, ou se consacre exclusivement
jusqu'à présent...
Alors, excusez-moi, je répète la question pour les gens du fond. Est-ce que la société Crédit Relax s'occupe également de mettre en relation des repreneurs ou des projets de reprise avec des holdings ISF?
Donc initialement, là, parce que nous sommes, la société est créée depuis, 4 ans, nous étions principalement positionnés sur la levée de dettes bancaires. Mais aujourd'hui, nous sommes sollicités de plus en plus sur des projets où les fonds propres ne sont pas suffisants. Donc désormais, nous accompagnons aussi sur la levée de fonds. Et donc nous sommes amenés à rechercher les fonds pour pouvoir réaliser notre métier initial, quoi. Donc on le fait.
Je pense que bizarrement par rapport à ça, enfin, l'autre jour, récemment, un cabinet spécialisé en acquisition d'entreprises me disait qu'en fait, pour lui, on était un peu dans une période un petit peu bizarre, paradoxale, puisque d'un côté, effectivement, l'accès au financement bancaire est particulièrement tendu et difficile actuellement. Mais c'est vrai que de l'autre côté, cette loi fiscale, enfin, cette possibilité d'exonération, met sur le marché, en tout cas potentiellement, effectivement, des financements très, très importants. Et c'est vrai que par rapport à ça, on ne saurait que trop effectivement vous encourager à essayer de voir de ce côté-là ce qui est possible de faire. Je pense qu'on va avoir, moi c'est mon analyse, hein, mais je pense qu'on va avoir aussi beaucoup de mauvaises surprises. Parce que quand vous avez d'une part l'urgence de temps de certaines holdings ISF qui ont jusqu'à telle date pour défiscaliser, je pense qu'on va avoir... Enfin, c'est pas sûr que tout ça se fasse dans l'harmonie et la transparence. Mais par contre, c'est vrai que cette démarche de tour de table, en tout cas, ce contexte fiscal permet effectivement, je pense, aujourd'hui, de lever des fonds, mais effectivement pas dans n'importe quelle condition, quoi qu'il en soit.
Ce qu'il faut faire attention dans ce raisonnement, effectivement, holding ISF, c'est-à-dire investisseur extérieur et crédit bancaire, c'est tout effectivement une combinaison entre une certaine forme de dilution de votre capital. Donc ça, faut bien l'avoir à l'esprit, en fait. Hein. Donc ça, c'est le biais des investisseurs extérieurs. La banque, elle, vous l'évite et vous permet de valoriser aussi votre entreprise. Alors je dirais pas que l'un est meilleur que l'autre, mais il faut que vous ayez cette réflexion à l'esprit pour effectivement garder les rênes de votre entreprise le plus longtemps possible entre vos mains.
Ok, une autre question, oui.
Quel est le taux d'endettement acceptable pour la société rachetée? Vous voulez savoir quel est le taux acceptable?
Alors, qui veut répondre à cette question? C'est pas une, enfin, il n'y a pas de réponse à deux chiffres, mais
il n'y a pas de règle. Hein.
Alors,
moi, ce que je dirais déjà dans tous les cas, et ça on l'a dit tout à l'heure, un business plan, c'est des prévisions financières et avant tout un plan de trésorerie en fait. Et ça, votre plan de trésorerie, il faut que vous fassiez mois par mois sur 2 ans en fait. Hein, et ça vous permet de voir de quelle façon ce que vous générez effectivement comme cash en fait est en mesure de rembourser non seulement vos frais fixes mais aussi vos emprunts en fait. Donc le banquier va regarder tout ça en fait, c'est votre possibilité à rembourser effectivement l'emprunt qui vous octroie. Donc c'est de vous mettre le plus près possible de la réalité, de la lucidité de votre marché avec ce plan de trésorerie. Et pour nous, les pics de trésorerie que vous pouvez voir en fait le mois, c'est ce qui doit être financé en fait. Ce que tu disais, Anne, tout à l'heure, c'est un peu le BFR. Quoi.
Stéphane. Enfin, moi, par rapport à votre question aussi, je trouve que très souvent, on lit dans la presse spécialisée en reprise des tas de chiffres, un peu des cabinets spécialisés qui nous sortent des taux dans tous les sens. Pour moi, c'est plus... Enfin, excusez-moi, mais si on se met du côté du repreneur, le plan de trésorerie, c'est la vraie réponse. Après, c'est vrai que les fonds d'investissement, les banquiers, les gros fonds d'investissement ont des tas de ratios qu'ils vont manipuler. Il faut tant de fois les fonds propres. Mais je dirais que c'est presque des outils de gestion pour eux, de leur côté. C'est-à-dire, c'est eux... Enfin, quelles sont les affaires en moyenne sur lesquelles ils acceptent d'aller? Mais pour vous, vous êtes plutôt du côté du prototype, vous n'êtes pas du côté de ces fonds de gestion ou de ces investisseurs. Donc je dirais qu'on ne va pas vous donner là-dessus autant, bon, vous dire 30%, c'est un minimum, parce que malgré ce que peuvent dire d'autres banquiers, c'est vrai que sincèrement, en dessous de 30%, même que ce soit une plateforme d'initiative locale, enfin tout ce qui est prêt d'honneur, on va vous dire d'entrée, c'est très serré votre démarche, on ne peut pas, et encore plus en reprise, je ne vous le cache pas. Donc voilà, autant là-dessus on peut vous répondre, autant vous donner des ratios sur CAF, sur fonds propres, etc. Là on rentre dans de l'analyse financière qui va, qui va pas... Enfin, je dirais que vous verrez ça avec votre expert comptable qui vous sortira 4 bons ratios. Et c'est vrai qu'avec un peu d'habitude, bon, face au banquier, vous pourrez échanger CAF et... voilà, mais la démarche de fond, elle est d'abord celle-là. C'est-à-dire, c'est la logique économique, en fait. Toute simple. Enfin, toute simple. Ouais, le bon sens. Oui.
Voilà, la capacité d'endettement que vous avez, elle dépend énormément de la rentabilité de la cible et de la capacité de la cible à dégager des cash flows, non seulement pour rembourser la fameuse dette stérile, mais pour financer l'activité au quotidien et éventuellement le développement d'activités que vous allez apporter. Donc chaque cas est particulier.
Tout à fait. Mais c'est de l'analyse financière au cas par cas. Vous allez pas pouvoir, on ne va pas pouvoir vous donner un chiffre qui marche à tous les coups, quoi. Oui, d'autres questions, s'il vous plaît.
Ça veut dire en fait qu'une société qui dégage très peu de bénéfices, pas grand chose.
Alors la question c'est du coup, si j'applique votre raisonnement, une entreprise qui dégage peu de bénéfices, elle vaut quoi?
Là, effectivement, on rentre dans les problématiques d'évaluation de société et la majeure. Il y a beaucoup de techniques de valorisation qui s'appuient sur la rentabilité.
Mais ce n'est pas la seule. Donc vous verrez qu'après, pour le coup, si on parle de l'évaluation et surtout de la négociation, ce qui va faire à un moment donné que vous allez être intéressé à reprendre telle entreprise, etc., ben, il y a d'autres enjeux. Il peut y avoir des enjeux patrimoniaux, des enjeux de développement, si vous êtes vous-même personne morale, intérêt stratégique de reprendre telle activité. Il va y avoir capacité ou pas à l'intégrer. Donc je dirais que l'aspect, effectivement, l'aspect cash flow est une des approches, mais ça ne va pas être... La seule et l'unique, et il faut quand même savoir qu'à côté des fonds d'investissement qui vont peut-être investir dans 3 boîtes qui font 15% par an, toutes les entreprises ne font pas, ont pas forcément des taux comme ça aussi forts. Et pourtant, elles vivent et elles se développent. Donc, mais par contre, c'est vrai que voilà.
Mais dites-vous une chose aussi, avec tout partenaire financier, ce qui compte pour un chef d'entreprise, créateur ou repreneur, sa force de conviction, mais surtout la vision en fait qu'il a de son entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Votre banquier, vous allez le séduire. Alors, il y a des ratios qu'il peut avoir, etc. Effectivement, il y a un équilibre financier qui est basique. Mais avant tout, c'est votre vision, c'est votre compétence personnelle qui fera vraiment la différence, en fait. Et ça, ça pèse énormément dans la balance en ce qui concerne, effectivement, la volonté de vous suivre.
Oui, une autre question. Alors, je résume la question. Donc, dans le cas d'une reprise effective, avec un partenaire, avec un endettement, donc avec un partenaire bancaire et éventuellement un fonds d'investissement, en cas de défaillance du chef d'entreprise, c'est ça? Non, parce que s'ils ne croient pas dans votre projet, ils ne vont pas y aller. Donc, l'histoire, elle ne commence pas. Oui. Non, mais je comprends bien la différence. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils ne croient pas en vous, monsieur... D'accord. Donc on est post, voilà. Donc on est post reprise. Il y a des difficultés. D'accord. Alors, qui veut répondre à cette question?
Moi, je peux répondre
au niveau
bancaire. Hein. Au niveau fonds, je ne me permettrai pas de répondre pour les fonds, parce qu'ensuite, chaque fonds peut avoir ses méthodes de gestion, de participation. Mais c'est sûr que lorsque vous identifiez auprès de que vous avez un souci, vous avez un souci par rapport au business plan qui était prévu, ce qu'il faut, c'est l'identifier, si c'est possible, en amont et avertir le banquier. Parce qu'évidemment, un banquier, ce qu'il n'aime pas, c'est être averti au dernier moment. Ensuite, c'est simplement la relation que vous avez avec le banquier qui permettra de négocier avec lui éventuellement de modifier le planning de remboursement. Donc c'est une négociation qui doit être faite avec la banque. Une chose qui est sûre, c'est aller trouver un autre partenaire bancaire quand ça va mal. C'est impossible. C'est très très dur. Nous, on a beaucoup d'appels de chefs d'entreprise qui sont dans cette situation aujourd'hui, hélas. Mais j'ai pas honte de le dire parce que je sais pas le faire, quoi. Les banques derrière ne sont pas intéressées à venir aider une société qui a déjà un partenaire bancaire avec qui, hélas, ça se passe pas comme prévu. Donc toute la négo est dans la relation avec votre banque, quoi.
Alors, bien justement, compris. Excusez-moi, par rapport à ça, on se demandait avec Hugues Franc comment répondre à cette question. Non, mais je crois qu'on a compris. Hein.
Et, voilà. Donc, à ce moment-là, on prend la décision. Il faut convaincre le banquier aussi, lui dire, attention, ça va mal. Là, ce qu'il faut, c'est alléger ou couper pendant quelques temps. Et donc c'est ça la seule solution aujourd'hui.
Moi, ce que ça m'évoque, excusez-moi, et on va conclure là-dessus. Moi, on en parlait avec Hugues Franc, on se disait, tiens, c'est vrai, comment faire? Le problème, c'est que, en tout cas, un partenaire, moi, j'ai envie de répondre, une banque, son boulot, c'est pas de gérer une entreprise. Donc, à partir de là, moi, pour moi, la réponse, elle est non. C'est-à-dire, elle est simple. Le métier d'un banquier, c'est de prêter de l'argent, de faire en sorte, tous les mois, il va rendre compte de combien il y a, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui est impayé. C'est simple, c'est le métier d'un banquier. Donc, déjà, première réponse pour le banquier, j'ai envie de vous dire non. Même s'il vous aime beaucoup et qu'il a beaucoup de sympathie pour vous. Deuxième chose, un fonds d'investissement, normalement, il est impliqué en tant qu'actionnaire dans votre projet. Donc, normalement, ça devrait être son rôle de vous aider à sortir l'entreprise de l'impasse, en tout cas des difficultés qu'elle risque de traverser. Et en fait, troisième réponse à cette question, c'est effectivement, malheureusement, quand les difficultés s'accumulent, que le banquier disparaisse, ça c'est sûr, qu'il n'y a personne, aucun fonds qui peut remettre, parce qu'on va se retrouver confronté au problème de la trésorerie qu'on évoquait. C'est-à-dire que même si votre entreprise, comme vous disiez, elle est belle, mais s'il n'y a pas le cash flow dont on parlait pour la faire tenir 3 mois de plus, 6 mois de plus, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve, c'est la situation qui peut arriver malheureusement, qui est la situation de cessation de paiement. Et là, je dirais que c'est la personne qui prend le relais, ça s'appelle l'administrateur judiciaire. Et je réponds pas vraiment à votre question, mais vous voyez que malheureusement, la réalité, elle fait assez vite réponse à ce type de questions. En fait, un chef d'entreprise qui se plante, pour résumer, c'est un chef d'entreprise qui peut se planter. Enfin, ça, il peut y avoir, enfin, c'est le risque, quoi. Je pense qu'aucun chef d'entreprise aujourd'hui ne peut se dire que il sera pas à un moment donné totalement responsable, comme vous dites, des risques qu'il prend et des gens qui l'emmènent avec lui, que ce soit des salariés, que ce soit un partenaire financier. Si, j'ai envie de vous dire, c'est vrai, il y a un risque.
Il y a.
Enfin, après, tout ce
un début de solution qui existe, si vous avez des fonds d'investissement spécialisés dans ce qu'on appelle le retournement. Mais bon. Ces fonds, ils vont attendre que vous soyez en difficulté, que vous soyez déjà sous une procédure.
C'est les rapaces. Non, mais je comprends, mais c'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes au démarrage, vous avez le réseau entreprendre qui va vous aider. Mais quand vous êtes en train de chuter du glacier, le meilleur guide de montagne, il ne peut plus rien pour vous. C'est ce que je voulais vous dire. C'est quand vous êtes en bas de la pente et que vous n'avez pas pris des risques, vous avez raison, le guide de montagne, il va vous faire faire les 200 premiers mètres. D'accord ? C'est ce qu'on évoquait avec, au début de la reprise, tout est possible. Vous pouvez convaincre, vous allez arriver avec votre énergie, mais une fois que la machine est lancée, que les emprunts sont signés, que l'affaire est signée, que les garanties se mettent en jeu, ce qu'on veut dire simplement, enfin, moi, notre expérience, c'est qu'à partir de là, quand vous allez dévisser en haute montagne, votre guide de haute montagne, il ne peut rien faire pour vous. Il est comme vous, c'est un petit monsieur accroché à sa corde. C'est juste ça, c'est pour dire qu'à partir du moment où vous êtes le dirigeant de l'entreprise, c'est chacun à ce moment-là qui va de son énergie et pour faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors, il y a des procédures de sauvegarde. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à cette question en 30 secondes. Il y a des procédures de sauvegarde. Il y a des choses qui vont exister à ce moment-là. Mais arriver à un certain niveau, c'est-à-dire que dès qu'on arrive en cessation de paiement, éventuellement un peu en anticipation, il va y avoir là des processus qui vont se mettre en place pour protéger le chef d'entreprise, sa résidence privée, son patrimoine, etc. Mais je dirais que là, c'est totalement un autre sujet. J'ai envie de remercier en tout cas Hugues Franc, remercier Jean-Philippe Deltour, remercier Stéphane Meunier de la CCI de Paris, vous remercier d'avoir participé à cette conférence et vous souhaiter une très très bonne fin de salon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand. Bonne fin de journée, au revoir.